Donc, ravie de vous accueillir pour ce webinaire sur le renouvellement des CSE. C'est un véritable enjeu pour chacun de vous. Pourquoi? Parce que on va construire, vous allez construire votre paysage syndical pour finalement les 4 années à venir.
Alors, le webinaire, comme le disait Stéphanie, va s'articuler autour de deux thématiques principales. Donc, le renouvellement d'abord des accords CSE. On va revenir finalement sur un premier bilan de cette première mandature du CSE. Quelques questions clés à se poser aussi pour faire un bilan qui soit propre à chaque entreprise, à chaque contexte, à chaque fonctionnement de CSE. Et le deuxième point, ce sera plutôt sur le renouvellement des CSE, mais avec un côté plutôt tourné sur les élections professionnelles. Comment envisager les élections? Quel est le positionnement des différentes organisations syndicales à ce stade-là, en tout cas dans ce qu'ils ont pu communiquer aujourd'hui? C'est les deux axes qu'on vous propose de voir, et donc on commence tout de suite avec le renouvellement des accords CSE. Quelques chiffres clés déjà à avoir en tête sur ce renouvellement des accords CSE. Il faut savoir que selon le rapport du comité d'évaluation des ordonnances travail, qui est paru en décembre 2021, on n'en a pas encore de plus récent, mais en gros, en 31 décembre 2020, on avait près de 90 000 CSE qui étaient mis en place par le biais d'environ 8 600 accords de mise en place du CSE qui ont été dénombrés entre septembre 2017 et décembre 2019 et enregistrés sur Légifrance. C'est une première estimation qui s'arrête du coup au 31 décembre 2020 pour le nombre d'accords CSE. Enfin, pardon, pour le nombre de CSE et en décembre 2019 pour le nombre d'accords. Donc, on voit qu'effectivement, il y a un certain nombre de CSE qui ont été mis en place de manière unilatérale, mais quand même, un certain nombre ont été mis en place par accord, comme le prévoit le Code du travail.
Alors, ce qui est juste une petite parenthèse, ce qui est intéressant, c'est que la lisibilité de la CFDT, c'est qu'elle va dire seulement 20% finalement des entreprises ont un accord CSE. Vous voyez, c'est intéressant d'avoir cette double lecture.
Et autre donnée intéressante, du coup, on a environ 25% des accords qui prévoient la création de représentants de proximité. Effectivement, c'était une opportunité offerte par la loi. Certaines entreprises s'en sont saisies, pas toutes. On en a quand même un certain nombre qui l'ont mis en place. Et en dernière donnée, fin 2019, on avait 74% des entreprises de plus de 300 salariés qui avaient mis en place un CSE et qui disposaient au sein de ce CSE d'une CSSCT. Donc voilà quelques chiffres clés pour introduire. Maintenant, on va pouvoir passer finalement à un bilan de cette première mandature du CSE. Qu'est-ce qu'on peut en dire 3, 4 ans après la mise en place des CSE au sein des entreprises? Alors déjà, effectivement, la mise en place des CSE, ça a été un dispositif qui a remis en cause finalement un système qui était ancré dans les pratiques du dialogue social en entreprise et ce depuis des dizaines d'années. Donc ça, c'est vraiment un premier point à noter. Et surtout, les ordonnances laissaient aux entreprises le soin de configurer par elles-mêmes leur propre modèle. Et ce, par la signature d'un accord collectif qui permettait aux partenaires sociaux de co-construire un CSE adapté aux enjeux de chacun. En tout cas, c'était la volonté, du législateur. On a observé une tendance à la centralisation qui s'est affirmée au fur et à mesure des négociations sur la mise en place du CSE. Ça a constitué vraiment l'enjeu majeur des négociations lors de la mise en place la configuration des nouvelles instances. Mais finalement, ce qu'on observe, une des caractéristiques principales, c'est que la mise en place des CSE s'est traduite par une très grande hétérogénéité, une très grande diversité de situations dans la manière d'appréhender et d'organiser les CSE au sein des entreprises. Et ce, d'ailleurs, en contradiction avec le modèle uniforme qui existait jusqu'à présent, puisque c'est vrai qu'on avait au comité d'entreprise, CHSCT et DP, on avait cette organisation dans l'ensemble des entreprises, peu importe leur taille, leurs enjeux respectifs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et on a donc une très grande diversité de situations. Et finalement, l'architecture, les missions et les modalités d'organisation diffèrent entre les entreprises en fonction de leur organisation, de leur contexte et des enjeux qu'elles avaient identifiés pour leur dialogue social à l'avenir. Si on regarde du coup la manière dont elles se sont organisées, on en a un certain nombre. Certaines finalement ont reproduit le modèle existant. Alors soit faute de temps, puisqu'on avait quand même une certaine limite pour mettre en place ces CSE. Soit dans l'attente du renouvellement pour mesurer finalement l'ensemble des opportunités qui étaient offertes par les ordonnances. Donc, on en a certaines qui sont plutôt restées dans l'ancien modèle. D'autres, en revanche, ont vraiment saisi l'opportunité de cette mise en place du CSE pour redéfinir leur dialogue social et identifier finalement le rôle de chaque acteur, du CSE, des commissions, des représentants de proximité lorsqu'ils existent. On a eu vraiment une réflexion, notamment pour positionner le CSE au niveau le plus opportun, en termes de périmètre, en termes d'attribution. Et c'est vrai qu'il y a une réflexion pour essayer de positionner le CSE au niveau le plus intéressant pour l'entreprise compte tenu de ses problématiques. Et souvent, le choix a été fait de le positionner au niveau le plus stratégique pour essayer de faire en sorte d'avoir un CSE qui couvre vraiment l'ensemble des dimensions stratégiques du dialogue social quand une représentation de proximité pouvait avoir un rôle plutôt justement de proximité, de terrain, pour traiter des problématiques qui relevaient plutôt du local. Cette réflexion elle s'est souvent accompagnée aussi d'une remise en cause des pratiques du dialogue social qui pouvaient soit être anciennes, parfois vétustes, puisqu'on était quand même dans un système qui existait depuis des dizaines d'années, donc c'est vrai qu'il y avait eu peu finalement d'adaptation. Et ceci a conduit aussi, on le sait tous hein, bien évidemment, à une rationalisation des moyens du dialogue social en termes d'élus et ou d'heures de délégation. Donc c'est vrai qu'on a connu une mise en place qui a permis de voir apparaître ces caractéristiques. Ce qui est important de relever aussi, c'est que la première mandature elle a connu un fonctionnement, ce qu'on peut qualifier en dents de scie, qui a été marqué par des événements externes que tout le monde connaît. On a une première période finalement qui a été assez courte pour certains de formation des acteurs, puisqu'il fallait quand même se saisir, pour, en tout cas pour celles qui avaient saisi l'opportunité de redéfinir leur dialogue social, que ce soit côté direction ou côté organisation syndicale et représentants du personnel. Il fallait pouvoir comprendre finalement les implications de ce qu'on avait signé par accord. Donc il y a une petite période d'adaptation qu'on a pu observer, mais qui très rapidement finalement est arrivée avec un fonctionnement dégradé mais intense de dialogue social durant la guerre d'Afghanistan. Donc on a été finalement très vite confrontés à un dialogue social certes intense mais totalement dégradé puisqu'on devait revoir totalement les modalités d'organisation du dialogue social au-delà de ce qui avait été fait de manière structurelle. Donc là on a connu une période conjoncturelle assez forte et qui a pu perturber parfois le dialogue social. Mais finalement, ce qu'on observe, c'est que la plupart des mesures d'urgence qui ont été mises en place dans le cadre de la crise Covid ont été mises en place avec succès et en associant les partenaires sociaux, les représentants du personnel aux différentes réflexions.
On ressent d'ailleurs les bénéfices, les engagements maintenant dans la restitution de leur bilan.
C'est ça.
Ce qui est intéressant, Marion, aussi, ce que tu dis, c'est qu'on a accompagné, nous, les entreprises en qualité de formateurs et de formation, et ce qui rejaillissait le plus en termes de formation, c'était effectivement d'expliquer les différents paramètres. Parce que quand vous, au cours d'un accord, vous changez votre paramètre, votre périmètre, pardon, votre périmètre d'action, il fallait, nous, qu'on réexplique, finalement, à des chefs d'établissement ou à des élus, et on faisait de temps en temps sous la forme de formation commune. Et ce qui était très intéressant, c'était de dire, voilà, on vous rappelle que le niveau national, c'est vraiment le niveau stratégique, c'est la vision méta, c'est la vue d'hélicoptère. Et puis après, vous avez la vision générale régionale, et quelles sont la vision que doit avoir la région? La région, c'est le milieu entre la base, finalement, et puis la direction nationale. Et en fait, cette stratégie de communication à travers des formations a été vraiment porteur, parce que ça permettait vraiment de lire précisément ce que disait l'accord, ce qui n'était pas clair à la lecture de l'accord. Donc c'était vraiment très 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 intéressant comme mission.
Et c'est vrai, comme tu le dis Stéphanie, en fait, on a cette période un peu charnière de gestion de la crise sanitaire a permis d'enclencher sur la suite finalement, parce qu'à la reprise, on a eu également beaucoup d'interactions avec les organisations syndicales pour mettre en place l'activité partielle notamment, mais aussi tous les projets de transformation qui ont eu lieu derrière. Et finalement, depuis la sortie de crise sanitaire, entre guillemets, oui. Ça fait quand même quelques mois, quoi, si on peut l'appeler comme ça, on observe finalement que, contrairement à la situation passée où on pouvait avoir des projets de transformation qui se succédaient mais qui ne se juxtaposaient pas, aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle on vient tout juste de sortir d'une crise sanitaire, on entre dans une crise politique avec la guerre en Ukraine qui s'est tout de suite transformée en crise économique et en crise énergétique aujourd'hui. Donc c'est vrai que les entreprises finalement sont confrontées de plus en plus à un enchaînement de projets de transformation qui fait qu'on est obligé de plus en plus, enfin, on a tout intérêt à solliciter de plus en plus les organisations syndicales pour les associer aux réflexions et faire en sorte de pouvoir traiter l'ensemble de ces projets de transformation auxquels sont confrontées les entreprises. Et finalement, on a eu au cours de cette mandature qui est un temps très réduit de fonctionnement qu'on pourrait qualifier de normal. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a été extrêmement... Enfin, le contexte externe a été extrêmement important dans cette première mandature du CSE et a permis de voir les difficultés qu'on pouvait avoir dans la gestion des relations sociales suite à la mise en place des CSE. Et sur les difficultés de fond, du coup, qui sont ressorties, on peut en lister plusieurs, notamment la question majeure de la proximité des élus avec le terrain et la gestion des problématiques locales, qui est une thématique sur laquelle on reviendra au cours de cette web conférence, parce que c'est vrai que c'est un des axes majeurs qui ressort aussi des analyses de l'organisation syndicale. On a tout ce qui relève aussi de la gestion des thématiques liées à la santé, sécurité, conditions de travail. Le rôle de la CSST dans ce cadre-là et son articulation avec les CSE. On peut relever aussi des difficultés d'articulation entre les différents niveaux, donc entre le CSE central, les CSE locaux, également du coup les commissions et les représentants de la proximité lorsqu'ils existent. Et finalement, puisque la réforme de 2017 a remis en cause un dispositif ancré sur l'architecture IRP et le rôle de chaque instance, pour autant, ça n'a pas remis en cause les obligations de l'employeur en matière d'information-consultation.
Exactement.
Donc, on a dû aussi avoir une réflexion sur l'ensemble de ces thématiques pour s'assurer qu'on respecte toujours les obligations de l'employeur dans ce cadre-là. Ce qui fait qu'on a dû mettre en place aussi une certaine coordination et une préparation de plus en plus importante envers les organisations syndicales pour pouvoir faire en sorte de bien gérer l'ensemble des informations-consultation qui nous sont imposés de par
le. C'est vrai que l'impact, tu me fais réagir, l'impact du CSE a eu pour réflexe chez vous auprès des DRH de davantage anticiper, préparer chaque rendez-vous, chaque entretien, chaque réunion que vous pouvez avoir avec vos instances représentatives du personnel et vos représentants du personnel. Ça, c'est très, très, très marquant. Plus on anticipe, plus on prépare. Serein, vous serez après dans la foulée. Et c'est encore plus marqué sous une mandature CSE. Ça le sera sans doute davantage, encore une fois, avec les nombres de négociations que vous avez à faire dans l'année et le nombre de projets de transformation que vous avez à faire passer.
C'était tout l'intérêt de la mise en place des CSE, puisque finalement, on sort d'un cadre très formel, très structuré, où on avait finalement peu de marge de manœuvre, à un dispositif adapté, en tout cas on a la possibilité d'adapter le dialogue social au contexte de l'entreprise et donc justement les marges de manœuvre on les retrouve dans la préparation, faire en sorte que les réunions CSE ne soient plus dans un cadre formel mais qu'elles soient constructives au service de la stratégie de l'entreprise.
Et du dialogue.
Et du dialogue.